Bonjour, aujourd'hui on se penche sur le bulletin de veille Infobulle, le numéro 22 de juin 2025. C'est une vraie mine d'infos sur l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique.
Oui, publié par les acteurs de la professionnalisation en Pays de la Loire, c'est ça?
Exactement. Et notre but, c'est d'en extraire un peu les infos clés, les tendances fortes pour les pros de la formation.
Surtout que ça bouge très vite dans ce secteur, hein?
Ça c'est sûr. Et impossible de passer à côté de l'intelligence artificielle. Elle est partout.
C'est clair.
D'ailleurs, l'UNESCO a sorti deux référentiels de compétences. Un pour les enseignants, un pour les apprenants, pour guider un peu l'intégration de l'IA dans l'éduc.
Et ce qui est intéressant dans ces référentiels de l'UNESCO, c'est pas juste la technique, c'est beaucoup l'accent mis sur la compréhension critique.
C'est-à-dire ?
Savoir utiliser l'IA, oui, mais aussi discerner son potentiel, ses limites, les enjeux éthiques, quoi. L'UNESCO insiste vraiment sur ce développement, à la fois éthique et technique.
Une vision équilibrée, en somme.
Voilà, c'est ça. Pour un développement maîtrisé.
Et on voit des exemples concrets émerger. Je pense au projet Kanmigo de Salman Khan. Une IA qui se veut socratique.
Ah oui, j'ai vu ça. L'idée, c'est de poser des questions, c'est ça? Pour faire réfléchir.
Exactement. Plutôt que de juste donner la réponse toute faite. C'est assez différent. Et à côté, on a des outils comme Padlet TA.
Qui est plus un assistant, là.
Oui. Un assistant IA très pratique pour les formateurs, pour créer des plans de cours, trouver des ressources.
Deux approches assez différentes finalement de l'IA en éducation.
C'est ça.
C'est une distinction intéressante, mais bon, pour l'instant, l'intégration de l'IA dans les LMS, les plateformes...
Les Learning Management Systems, oui.
Ça ressemble surtout à une optimisation de fonctions qui existe déjà. On est plus dans l'amélioration que dans la révolution pédagogique immédiate, je dirais.
D'accord. Plutôt une évolution qu'une rupture pour le moment.
Oui. Et une autre question qui monte, c'est la tension entre l'IA et l'éco-responsabilité. Ça a été mentionné dans une conférence, apparemment.
Ah oui.
La nécessité d'avoir des projets bien documentés, contrôlés, pour éviter une surconsommation d'énergie liée à l'IA. C'est un point de vigilance.
Logique. Et cette question de la technologie, ça nous amène à un autre gros sujet de la veille, l'accessibilité. L'accès pour tous.
Oui. Comment on s'assure que tout le monde peut utiliser ces outils et suivre ces formations?
C'est ça. Et là, il y a pas mal de ressources mises en avant.
Ah oui, on sent une vraie mobilisation là-dessus. Il y a le guide de l'AGFIP et France Immersive Learning sur l'accessibilité du learning immersif. C'est très spécifique.
D'accord.
Il y a aussi le guide de l'AFNOR sur l'accessibilité numérique, qui est lié à l'acte européen sur l'accessibilité. C'est plus général.
Et le FALC aussi, non? Le facile à lire et à comprendre.
Ah oui, absolument! On insiste beaucoup sur le FALC pour que l'info soit accessible au plus grand nombre. Pas seulement pour les handicaps reconnus, mais plus largement.
L'idée, c'est vraiment de faire tomber les barrières, qu'elles soient numériques, cognitives, liées au handicap. Et il y a cet exemple projection de BPI France.
Ah oui, l'expérience immersive sur les handicaps invisibles.
C'est assez fort comme approche, non? Pour sensibiliser.
Oui, c'est une approche qui mise sur l'empathie, sur le fait de vivre un peu la situation, même virtuellement. Ça montre bien cette volonté d'aller au-delà des obstacles évidents et de créer une culture de l'inclusion plus profonde.
Tout à fait. Alors, au-delà des outils de l'accès, la veille parle aussi beaucoup d'évolution de la pédagogie elle-même.
Oui.
Il est question d'une lente et irréversible montée en puissance de la place de l'apprenant. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Ça se voit de plusieurs façons. D'abord, on intègre de plus en plus les sciences cognitives.
Comment le cerveau apprend, en gros?
Voilà. Il y a une fiche de l'Université de Lorraine là-dessus qui est très bien faite. Et ensuite, et ça c'est un point vraiment fort, on prend en compte les neurosciences affectives.
Les émotions.
Exactement. Les émotions sont plus vues comme un obstacle, mais comme un vrai moteur pour l'engagement, la mémorisation. Donc, créer un climat émotionnel positif, ça devient un objectif pédagogique.
Intéressant. Et ça donne quoi comme méthode pédagogique?
On voit monter le peer-to-peer learning, l'apprentissage entre pairs. On mise sur l'intelligence collective du groupe.
Apprendre les uns des autres.
C'est ça. Et l'autre grande tendance, c'est la pédagogie expérientielle. Il y a un podcast d'Étienne Galmiche qui en parle très bien, cité dans La Veille. L'idée, c'est qu'on apprend mieux en faisant, en vivant les choses.
Et l'erreur devient une étape normale, voire utile.
Exactement. L'erreur n'est plus une faute, mais une occasion d'apprendre. C'est une vraie bascule.
Il y a même des conseils très pratiques qui découlent de tout ça. Par exemple, limiter le nombre d'objectifs pédagogiques par jour.
Oui, pour éviter la surcharge cognitive. La recommandation, c'est 3 à 5 objectifs pour une journée de 7h30. Ça aide à mieux mémoriser.
D'accord, c'est précis.
Oui. Et un autre conseil, c'est sur l'évaluation formative. Le feedback, pour qu'il aide vraiment, doit être granulaire.
Granulaire, oui. C'est-à-dire ?
Très spécifique. Pointer précisément ce qui est réussi, ce qui peut être amélioré. Pas juste un « bon travail » ou « à revoir », ça n'aide pas beaucoup.
Logique. Il faut des pistes concrètes pour progresser.
Voilà.
Et tout ça s'inscrit dans une adaptation plus large, non ? La mise à jour du format code, la classification des formations va dans ce sens aussi.
Tout à fait. La version 14 intègre beaucoup plus fort le numérique, la transition écologique.
Signe que ce sont des compétences transversales maintenant.
Oui, ce référentiel montre bien comment les compétences attendues évoluent et donc comment l'ingénierie de formation doit suivre.
Bon, alors si on devait faire une synthèse rapide de cette veille, Infobulle.
Allez-y.
On dirait 1. L'IA qui transforme les outils et nous fait réfléchir à nos pratiques.
2. L'accessibilité qui devient vraiment une exigence centrale.
Indispensable, oui.
Et 3. Une pédagogie qui se réinvente autour de l'apprenant, de ses émotions, de son expérience.
C'est une bonne synthèse. Et ça nous amène à une question pour la suite, peut-être.
Laquelle ?
Mais avec ces IA compagnons d'apprentissage qui deviennent de plus en plus performantes, et ces pédagogies très centrées sur l'humain, l'émotion, le partage entre pairs, l'expérience, quelle sera la place unique, irremplaçable, du formateur, de la formatrice, demain ?
Où se situera sa valeur ajoutée la plus cruciale ?
Exactement. C'est une question ouverte, hein, mais qui est essentielle pour penser l'avenir de nos métiers.